Terre au Carré, c'est Laure du sud de la France. Je tente un message un peu pêle-mêle parce que j'aimerais vous dire plein de choses. Déjà, comme beaucoup d'auditeurs, je vous remercie pour votre pédagogie. L'écologie reste quand même le domaine d'action le plus important aujourd'hui puisqu'il conditionne tous les autres. Ensuite, je me permets de partager un avis sur certaines émissions qui mériteraient peut-être parfois d'introduire les sujets, notamment technologiques, avec une vision un peu plus globale et un peu plus physique. Donner des indications sur les chaînes de valeur, que suppose telle ou telle filière, rappeler les ordres de grandeur. Pour ne donner qu'un exemple, quand on parle des énergies renouvelables, insister aussi sur les bilans matière, environnement et énergie fossile qui vont avec. Ensuite, merci à Camille d'aller à la rencontre des chasseurs, continuer à les interroger avec finesse sur leurs ambiguïtés. Et pour un prochain sujet, pourquoi ne pas dédier une émission sur le principe des low-tech pour réduire nos impacts et nos consommations avant tout le reste. À bientôt.
Oui, bonjour, Kevin de Bretagne. Je vous appelle pour réagir à l'émission sur l'accès au foncier que j'ai écouté en podcast ce matin. Et ben, pour mettre en parallèle une émission de vos collègues dont on va déguster il y a quelques semaines sur les néo-vignerons, moi j'ai la trentaine, j'ai tout quitté, ma vie post-stable avec un bon salaire pour remplir mon rêve et venir m'installer pour faire de la viticulture dans une zone de Bretagne. Et ici, le fait que je sois jeune, non issu du milieu de l'agriculture, voulant faire du bio et voire plus, c'est l'omerta. Voilà, l'accès, la SAFER dont vous parliez, c'est même pas envisageable. Un petit peu décourageant, un combat, mais on lâche rien. Bonne journée à tous et continuez comme ça.
Bonjour, je m'appelle Annette, je téléphone d'Allemagne et je m'énerve depuis longtemps sur les problèmes qu'ont les différents chasseurs en France. Si, comme en Allemagne, les chasseurs feraient un permis de chasse correct, je vous garantis qu'il y en aura la moitié moins. Parce qu'ils n'arriveraient pas. Ils tomberaient tous dans le piège, parce que là, c'est un apprentissage de la nature, et après seulement, ils ont le droit de porter une arme, et pas l'inverse. Merci beaucoup.
Oui, bonjour, c'est Martine dans l'Isère. Je vous appelle parce que je voulais réécouter l'émission sur le photovoltaïque que j'ai cherché dans les podcasts, mais ne l'ai pas retrouvée. Pourriez-vous la remettre en ligne ? Merci.
Merci beaucoup Martine, mais il est bien disponible pourtant ce podcast sur le photovoltaïque. Vous le trouverez en tapant simplement photovoltaïque sur l'appli France Inter. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à partir de lundi prochain, nous allons vous proposer, en plus du podcast habituel de l'émission, une version condensée des dossiers de la Terre au Carré. Ce podcast, nouvelle formule, s'appelle Science et Écologie. Vous pourrez donc vous abonner dès lundi sur l'application Radio France ou vos applis de podcast habituels. En attendant, mais sur le numéro du répondeur pour vos messages, c'est le 01 56 40 45 45. Et merci à vous, Kevin, qui témoignez aujourd'hui sur la difficulté de pouvoir réaliser vos rêves de vigneron. Bon courage à vous. Depuis des millénaires, les humains bricolent les gènes des plantes et des animaux qui les entourent grâce à la sélection artificielle. Mais aujourd'hui, des procédés plus high-tech cherchent à recréer des espèces disparues. Et si pour contrer l'érosion de la biodiversité animale, nous faisions appel à ces techniques pour permettre donc la renaissance d'espèces éteintes. Entre fantasme et réalité, eh bien c'est la question posée par nos deux invités, Lionel Cavin et Nadir Alvarez, qui sont en duplex des studios de la radio suisse romande à Genève. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Nadir Alvarez, vous êtes biologiste de l'évolution et généticien, professeur titulaire à l'Université de Genève et vous êtes le conservateur en chef du Muséum National d'Histoire Naturelle de Genève. Lionel Cavin, vous êtes paléontologue et après être passé par le musée des dinosaures d'Esperanza en Espagne et le Natural History Museum de Londres, eh bien vous êtes conservateur également au Muséum National d'Histoire Naturelle de Genève. Vous publiez ensemble donc ce livre, « Faire revivre des espèces disparues ». C'est aux éditions Favre, un livre dans lequel vous abordez donc les différentes techniques qui sont aujourd'hui envisageable. On en parle dans un instant ensemble avec les questions et les messages qui arrivent pour vous sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter pour les notes vocales. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passera au vert à 14h30.
Avec la grippe aviaire qui continue de gagner du terrain, elle s'étend dans l'ouest et arrive en Bretagne désormais.
Voilà pour le sommaire de l'émission. Valérie Ayestarai la réalise, Lucie Sarfati a préparé le dossier et c'est Fabrice Desmas qui est à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au Carré. Sur France Inter.
Une molécule d'ADN, comme moi, est un négatif pour créer une chose vivante.
Et il arrive que des animaux qui ont disparu depuis des millions d'années, comme les dinosaures, laissent leur négatif pour qu'on les trouve. Il faut simplement savoir où chercher. Ouf ! Et maintenant, nous pouvons créer un bébé dinosaure.
Extrait de Jurassic Park en 93. Steven Spielberg, faut-il recréer des espèces disparues à l'heure où les scientifiques nous parlent d'extinction de masse de la biodiversité animale? Eh bien, c'est donc le sujet de notre discussion avec vous, Lionel Cavin et Nadir Alvarez. C'est la sortie de votre livre, Faire revivre des espèces disparues, qui nous a évidemment inspiré ce sujet. Alors, c'est vrai que c'est une question qui semble très sulfureuse. Alors, pourquoi des scientifiques tout à fait sérieux comme vous se posent la question au point d'écrire un livre sur le sujet, Nadir Alvarez?
Oui, alors c'est sûr que au moment où on a commencé à réfléchir avec Lionel à ces questions des extinctions, on l'a fait avec deux approches très complémentaires. Lionel, paléontologue, moi plutôt généticien. Et on est parti d'une vision peut-être assez scientifique, technologique, pour essayer de comprendre tous les mécanismes et toutes les possibilités qu'offrait la désextinction. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que ça avait un impact très important sur le vivant en général, sur notre rapport à la nature. Et puis, ce sont des thématiques qu'on développe du coup dans le livre qu'on a coécrit.
Allez, Lionel Cavin, est-ce que votre regard a même changé sur la question au fil de votre investigation? Alors
oui, franchement, je pense que c'est le cas. Au départ, je pensais écrire plutôt un texte à charge contre cette idée-là.
Oui.
Et au fur et à mesure des lectures, des rencontres, des réflexions, disons, je pense que ça a changé un petit peu. Alors, j'ai pas envie de créer un Jurassic Park l'année prochaine, mais je pense que dans certains cas, la réponse à cette question est plus subtile que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord.
Alors, c'est vrai que de façon un peu caricaturale, il y a le thème des dinosaures, hein, avec évidemment cette question, est-ce qu'on pourrait recréer justement ces animaux. Il faut peut-être calmer tout de suite les enthousiasmes un peu trop débordants, parce qu'a priori, les chances de recréer cet animal-là sont quand même assez faibles, c'est ça ?
Oui, alors les dinosaures, il faut oublier. L'ADN n'est pas préservé dans des fossiles qui ont au moins 66 millions d'années. Il y a un pseudo projet, disons, qui tenterait de faire revenir un dinosaure en transformant un poulet, hein, puisqu'on sait que les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures.
Ouais.
Donc en réactivant quelques gènes de poulet, par exemple ceux qui empêchent la pousse des dents ou qui font que la queue est petite, si on les réactive, on aura une espèce de poulet à dents et à longue queue qui ressemblerait à un dinosaure, mais c'est un ersatz, ça ne serait absolument pas la désextinction d'un dinosaure.
Lionel Cavin, c'est même le paléontologue américain Jack Horner, c'est ça, qui a travaillé comme conseiller scientifique de Jurassic Park, qui est à la tête de ce projet Chickenosaurus, c'est ça ?
Voilà, Chickenosaurus, effectivement. Bon, je pense qu'il y a un petit coup de pub là derrière aussi pour ses travaux, mais c'était surtout de la recherche fondamentale, en fait. Comment on peut réactiver un gène qui est éteint chez un organisme et le rendre actif à nouveau? Donc, ça n'a pas de volonté.
Sauf que, Nadir Alvarez, imaginons qu'on arrive quand même à recréer un petit dinosaure carnivore. Ça poserait quel type de problème, finalement, aujourd'hui, de faire revivre cet animal dans la nature ?
Alors, imaginons même concrètement faire revenir un petit dinosaure du type oiseau, comme les moas néo-zélandais qui ont disparu il y a plusieurs centaines d'années. Mais ça pose forcément la problématique de l'habitat de cette espèce. Et aujourd'hui, évidemment, la désextinction doit forcément être associée avec une réflexion d'espace, de réensauvagement. Et on ne va pas mettre un petit dinosaure carnivore ou un moa sur un balcon ou dans un zoo. Donc avec Lionel, c'est vrai qu'on développe cette problématique d'espèces déséteintes, oui, mais du coup, d'espèces parapluies, pour préserver aussi, par la même occasion, des habitats et toutes les espèces associées à cet habitat.
Oui, parce que j'allais vous dire, au-delà de l'habitat, il y a évidemment toutes les conséquences dans la chaîne, tout simplement. Ce sont des prédateurs. Qu'est-ce que ça peut avoir derrière comme conséquence en chaîne sur les autres espèces ?
Alors, ça peut être des prédateurs ou ça peut être des herbivores.
Enfin, je pensais au poulet avec ses dents.
Ah oui, au poulet, oui, effectivement. Ouais. Mais l'idée, ça serait justement de reconstituer des écosystèmes qui ont existé. Alors là, encore une fois, on ne parle pas des dinosaures, mais qui ont existé relativement récemment, il y a quelques siècles. Et si beaucoup de ces animaux ont disparu depuis quelques siècles, c'est en grande partie par la faute de l'homme. Donc finalement, de faire revenir certaines espèces, en tout cas des espèces qui ressemblent aux espèces disparues, ça serait reconstituer des écosystèmes qui n'existent plus en grande partie par notre faute.
En tout cas, quand on voit les tensions qui existent déjà sur des sujets comme le loup ou l'ours dans nos montagnes, on imagine l'arrivée d'un petit dinosaure carnivore. Ce serait vraiment tout à fait problématique. L'exemple du mammouth, parlons-en également. Avant de passer à des espèces peut-être moins attendues, comment s'y prendre pour recréer un mammouth? Des sociétés privées, c'est ce que vous racontez, lèvent déjà des fonds pour se lancer dans de tels projets, à l'instar de George Church, qui est généticien et créateur de la biotech colossale aux États-Unis, et on l'écoute.
Ils sont génétiquement très proches de l'éléphant d'Asie, ils seront probablement compatibles.
George Church croit donc en son projet, et il n'est pas seul. Son entreprise de biotechnologie est parvenue à lever 15 millions de dollars pour accomplir cet objectif. Les scientifiques veulent donc introduire de l'ADN de mammouth collecté en Sibérie et l'introduire dans le génome de l'éléphant d'Asie.
Cet animal sera un hybride, clairement, un éléphant qui aura les caractéristiques de mammouth qui lui permettent de survivre, de résister au froid.
Et ainsi de s'épanouir dans de vastes zones aujourd'hui inhospitalières pour l'éléphant d'Asie, menacé d'extinction. Une question et non des moindres reste à régler, celle de la gestation. La désextinction des mammouths laineux est encore loin d'être une réalité.
Le JT d'M6 en 2021, c'était la voix de Véronique Barriel, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, que nous entendions. Est-ce que Nadir Alvarez, on pourrait vraiment aboutir à la recréation d'un mammouth aujourd'hui?
Alors, on pense aujourd'hui qu'il y a une méthode qui serait encore plus efficace que celle qui est décrite par les collègues de Colossal, l'entreprise de biotech là, dont on vient d'entendre quelques infos. Ce serait d'arriver à identifier sur le terrain, dans le permafrost, des cellules qui sont encore biologiquement actives. Ça a quasiment été le cas il y a 2-3 ans avec une équipe de Japonais et de Russes qui ont retrouvé de l'activité biologique dans des échantillons de mammouths du permafrost, donc une activité biologique cellulaire extrêmement réduite.
Mammouth mort il y a 28 000 ans.
Hein, ouais, mammouth mort il y a 28 000 ans, exactement. Donc si on pouvait trouver un mammouth encore mieux conservé, qui a été, on va dire, congelé presque instantanément à sa mort, là, on pourrait même imaginer le cloner comme on l'a fait avec Dolly, par exemple. Hein. Et là, ce serait pas une chimère entre un éléphant et un mammouth qu'on recréerait, mais directement un mammouth.
Et les autres, je reviens à cette question, mais les autres espèces pourraient aussi s'adapter, parce que vous disiez finalement tout à l'heure, c'est l'homme souvent l'empreinte de l'homme qui a déstabilisé, détruit certains écosystèmes. Là, toutes les autres espèces pourraient s'adapter à l'arrivée d'une nouvelle espèce finalement?
Vaste question, ce serait certainement pas évident, mais ça a été le cas il y a quelques milliers d'années, donc pourquoi pas revenir à ce stade. Il y a un projet par exemple en Sibérie, le Pleistocène Park, où il s'agit de reconstituer justement la mégafaune qui existait en Eurasie il y a quelques millénaires. Et là, on a déjà des bisons, des aurochs reconstitués en quelque sorte, des chevaux, des élans évidemment, mais l'idée serait peut-être de remettre des mammouths, et ils seraient probablement très bien à leur place, si le climat le permet évidemment, parce que vu la direction qu'on prend actuellement, c'est peut-être pas le mammouth qui est le meilleur candidat.
Bah justement, on verra quels sont les candidats intéressants dans un instant, puisque vous dites vous-même dans votre livre que dans certains cas, ça mérite d'être étudié. C'est ce qu'on va révéler donc aux auditeurs de la Terre au Carré dans un instant, et vous allez également répondre à leurs questions. Wake Me Up Falls.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Elle s'appelle Dolly, elle a 7 mois. Et contrairement aux apparences, ce n'est pas une brebis comme les autres. Grâce à une mère génétique appartenant à ce troupeau écossais, Dolly est le premier clone au monde d'un animal adulte. Jusqu'à présent, on ne travaillait qu'à partir de cellules d'embryons moins complexes. Mais va-t-on pouvoir créer des répliques de n'importe quel être vivant ?
La leçon de l'histoire de la génétique, c'est que tout ce qui peut être fait avec les mammifères peut être fait avec l'homme, mais avec un peu plus de difficulté.
Voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de clonage dans les années 90, hein, une technique donc qui avait été utilisée pour la première fois avec la brebis Dolly. Lionel Cavin et Nadir Alvarez, vous qui êtes en duplex de Genève, pour nous parler donc de ces espèces disparues qu'on pourrait faire revivre. La technique de clonage utilisée pour Dolly, c'est pas du tout possible pour des espèces éteintes, c'est ça ?
Alors, ce serait possible uniquement si on trouve des cellules avec une activité biologique, comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour le mammouth.
Pour le mammouth,
sinon, ouais. Mais sinon, pour toutes les espèces pour lesquelles on aurait, quand bien même, une connaissance extraordinaire du génome, et là, on n'aurait pas la possibilité, en l'absence de cellules vivantes, de faire un tel clonage. Et pour ce faire, et c'est un petit peu ce que racontait la personne de Colossal, eh bien, on peut introduire des gènes qu'on décode en lisant les génomes anciens, les génomes des espèces éteintes, donc en intégrant ces gènes dans le génome d'espèces proches encore existantes aujourd'hui. Eux projettent de le faire sur l'éléphant, avec peut-être des gènes permettant d'avoir une fourrure, une meilleure résistance au froid, etc., etc. Et ça, si on commence à se lancer dans ce genre de processus, eh bien, on doit réinterroger un petit peu la notion d'espèce. Qu'est-ce qu'une espèce ? Est-ce qu'une espèce, c'est le fond du génome ou simplement la fonction écologique d'une espèce ?
Camille, des questions des auditeurs.
Oui, Patrice demande s'il serait pas plus facile de réactiver des gènes d'animaux disparus depuis peu, et il donne l'exemple du dodo, Lionel Cavin.
Alors le dodo, c'est une colombe, un colombiforme. Et c'est pas évident parce que les cousins les plus proches du dodo sont des petits oiseaux. Et en plus, chez les oiseaux, c'est toujours plus compliqué parce qu'il y a un œuf avec une coquille, et donc les manipulations sont plus difficiles. Donc, à mon avis, je pense pas que ça soit plus simple dans le cas du dodo.
Et si on prend la question plus largement, alors juste réactiver des gènes d'animaux disparus depuis peu, tout court.
Oui, alors on développe un petit peu dans le livre avec Lionel quelques exemples d'animaux qu'on pense mériter la désextinction parce qu'éteints dans des conditions immorales d'après nous. Et ces animaux, c'est parfois des oiseaux, parfois des mammifères, ont des espèces proches encore existantes aujourd'hui dont les ovocytes pourraient recevoir des modifications de leur génome.
Précisément.
Alors il y a le numbat pour ce qui est du thylacine, donc le loup marsupial, en fait on a un qui a disparu au début du 20e siècle, dans les années 30.
Le tigre de Tasmanie.
Voilà. Et il y a une espèce proche dont le génome vient d'être complètement élucidé, si j'ose dire. Le fourmilier marsupial, et lui pourrait vraiment servir de modèle. Et chez les marsupiaux en plus, c'est un petit peu plus simple parce qu'une partie du développement se passe dans la poche, donc on peut passer facilement une espèce dans la poche d'une autre espèce, ça facilite un petit peu le processus.
Il y a d'autres exemples, hein. Vous parlez par exemple du bouquetin des Pyrénées, parce qu'il y a eu une tentative, je crois, de scientifiques espagnols en 2009, c'est ça, Nadir Alvarez ?
Oui, tout à fait, c'est peut-être la seule expérience à peu près réussie de désextinction, et là, les cellules qui ont été utilisées pour faire un clonage, donc typiquement comme ce qui a été fait pour Dolly, bien, ces cellules avaient été prélevées du vivant de la dernière représentante de ce bouquetin des Pyrénées, qui était une sous-espèce, voilà, le boucardo, une sous-espèce de la péninsule ibérique, enfin de l'espèce ibérique, et malgré en fait le fait d'avoir prélever ces cellules dans des conditions optimales, les avoir congelées immédiatement à moins 80, eh bien, il y a eu des dizaines et des dizaines de tentatives pour les insérer dans un ovocyte de chèvre. Et sur toutes ces tentatives, il y en a une qui a à peu près abouti, c'est-à-dire qu'elle a permis la naissance d'un cabri, mais celui-ci est mort très vite, en quelques minutes. Donc une expérience à moitié réussie, on va dire.
Où est-ce que vous situez le curseur sur... Enfin, c'était un peu le début de la question de Mathieu au début de l'émission, mais au niveau éthique, en fait. Parce que est-ce qu'il y a un moment, ça devient un petit peu vraiment de... comment dire, des scientifiques, du bricolage, du presque faire joujou avec des gènes, etc. Enfin, où est-ce que vous situez le curseur sur l'échelle de l'éthique? Je ne sais pas comment formuler ma question.
Alors, il faut juste pas que ça soit du joujou, c'est ça l'idée. Mmh. Quoi. C'est, pour nous, des cas de désextinction sont justifiables s'ils sont intégrés dans des projets beaucoup plus vastes de réensauvagement et de protection d'environnement. Il ne s'agit en aucun cas de faire des bêtes de foire qu'on mettrait dans des zoos, mais plutôt de... Vous savez, il y a plusieurs projets de réensauvagement à une grande échelle actuellement qui couvrent l'Europe, une partie de l'Eurasie ou de l'Amérique du Nord. Et dans ces grands espaces rendus plus ou moins à la nature sauvage, eh ben, on pourrait imaginer...
Est-ce qu'une fois que la brèche serait potentiellement ouverte, il n'y aurait pas des risques que ça parte en cacahuète?
C'est le cadeau de Prométhée, hein, c'est toujours la même chose. Il y a un côté qui est intéressant, puis un côté qui est dangereux. Mais bon, je pense que c'est très difficile de lutter contre ça. Mais si on écrit ce bouquin maintenant aussi, c'est peut-être pour réfléchir à la question en amont, quoi. Puis c'est bien, je pense, de commencer à réfléchir à ces questions avant que ces techniques vraiment se mettent en place et puis que les projets se réalisent.
Nadir Alvarez, justement, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a listé les avantages et les inconvénients justement de ces recherches. Quels sont les principaux inconvénients justement à l'idée de ressusciter une espèce ?
Ouais, alors l'UICN a développé 11 points principaux qui sont des points d'attention sur la désextinction. Parmi ces points, il y a la réextinction, c'est-à-dire qu'une espèce désétinte peut à nouveau s'éteindre. Et puis, bien sûr, il y a toute l'interaction avec les autres espèces du milieu. Il y a le fait de remettre au goût du jour des pathogènes qui étaient plus
d'anciennes maladies, mais en fait, c'est ça.
D'anciennes maladies, exactement. Ouais. Il y a tout un tas de points qui sont élaborés.
C'est l'idée que l'espèce devienne imprévisible, c'est ça, ou envahissante, vraiment envahissante.
Oui, par exemple. Avec Lionel, c'est vrai qu'on défend aussi, en tout cas, on interroge la question de bouleversement. Qu'est-ce qu'un bouleversement? Quand on voit qu'aujourd'hui, la biomasse des vertébrés terrestres et des humains représente 97% contre 3% pour la biodiversité sauvage, un rapport qui était l'inverse il y a 10 000 ans, ça nous semble important quand même de pointer du doigt que le bouleversement qui pourrait être vécu avec la recréation ou disons la désextinction d'espèces, finalement n'est peut-être qu'une fraction epsilon du bouleversement que notre espèce a produit sur la planète pendant ces dernières années, surtout depuis le dernier siècle.
Alors justement, Alain nous écrit sur franceinter.fr, mieux vaut prendre soin de l'existant avant de faire revivre les espèces disparues. À quoi servirait-il de ressusciter certaines espèces dans 100 ans si elles n'ont plus d'habitat? Que répondez-vous?
Alors on est entièrement d'accord, c'est pas de technique qui s'oppose, il faut évidemment protéger les écosystèmes actuels, mais par exemple par rapport à la mégafaune qui est quand même un petit peu l'objet dont on parle le plus, les gros animaux de plus de 40 kilos, on considère comme tout à fait normal qu'il faut la conserver par tous les moyens là où elle existe encore, c'est-à-dire en Afrique essentiellement. Par contre dans le reste du monde où elle a été exterminée en grande partie, en tout cas par la faute des humains, là on n'est pas du tout capable de l'accepter. Dès qu'un ours ou un loup monte son museau, on veut le tuer. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité des autres continents, j'ai envie de dire, pour protéger cette mégafaune qu'on a contribué à faire disparaître? Et le rhinocéros de Sumatra qui n'existe plus que dans quelques petites îles d'Indonésie, par exemple, pourraient réoccuper de vastes espaces d'Eurasie s'il était, entre guillemets, transformé en rhinocéros de mer qui était son proche cousin disparu.
Nadir Alvarez, est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque, en travaillant sur ces techniques, de faire passer au second plan les efforts à mener pour freiner l'érosion actuelle de la biodiversité? C'est ce qu'on voit aussi, c'est la même question qu'on pose avec le climat. Est-ce qu'à vouloir mettre au point des techniques de géo-ingénierie, finalement, on ne fait pas passer au second plan tous les efforts qu'on doit mener pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre?
Oui, là, vous pointez une problématique ultra pertinente. Et c'est vrai que dans le livre, on défend la thèse de s'il y a des extinctions, elle doit être associée à un réensauvagement et que les espèces des éteintes deviennent des espèces parapluies, en quelque sorte. Hein. On sait que les bailleurs de fonds sont toujours plus enclins à financer des projets technologiques que des projets qui seraient... pour la préservation, ou disons un certain niveau de stase dans le progrès, que ce soit en termes de biodiversité ou de climat. Mmh. Bien sûr, s'il y a des extinctions, il faut, comme on le disait en début d'émission, c'est pour permettre à ces espèces d'occuper occuper de vastes espaces, sur tous les continents, et par là même de préserver des habitats, et donc toutes les espèces encore existantes aujourd'hui qui ont bien du mal à avoir de la surface.
Une question de Benjamin, avec une réponse rapide, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y existe une banque de données génétiques pour sauvegarder des animaux qui seront éteints dans un avenir proche ?
Alors, je pense que toutes les espèces en voie d'extinction, on l'observe depuis presque, je pense, un siècle. Quand les populations deviennent très très réduites, tout à coup, elles commencent à être monitorées. On l'a vu avec le bouquetin des Pyrénées. Donc, c'est le cas du rhinocéros de Sumatra, le cas de toutes les espèces qui sont proches de l'extinction. Donc, oui.
Allez, Lionel Cavin, Nadir Alvarez, vous restez avec nous. On aura certainement encore un petit peu de place pour une question dans quelques minutes.
France Inter. La Terre au carré.
14h30, Camille Passauvert.
Et je vous reparle aujourd'hui de la grippe aviaire. La dernière fois, c'était au début de l'hiver, pour vous dire que tous les œufs et les volailles plein air que vous achetez ne le sont en fait pas. Hein. Plein air, c'est uniquement sur l'étiquette. Les animaux étant confinés partout, et ce, quelle que soit la taille de l'élevage, depuis le mois de novembre, c'est toujours le cas. Parce que l'épizootie n'est pas terminée, loin de là, plus de 1000 foyers à la date d'hier. Et les mesures prises vont désormais au-delà du confinement, puisque déjà 14 millions de volailles ont été abattues.
Il y a des arrêtés qui tombent un peu là chez les collègues comme des flèches, pouf, pouf, pouf. Donc moi, je m'attends à ce que ça arrive.
Hélène Bailly est éleveuse dans les Deux-Sèvres, 3500 poulets par an, des plein air, qui ont une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête puisque la grippe aviaire s'étend dans l'Ouest. Et les autorités donc ordonnent des abattages préventifs partout, quel que soit le type d'élevage et la taille, ce qu'elles trouvent totalement injuste.
Nous, les éleveurs plein air, on n'a pas du tout véhiculé la maladie. Dans les Deux-Sèvres, il y a 19 foyers de grippe aviaire. Il n'y a aucun cas plein air. Tous les cas se sont faits dans des gros bâtiments. L'idée, c'est pour eux de protéger des grosses entreprises, des grosses structures. Elles vont être préservées et on abat tout autour. Et ça, c'est assez révoltant.
Une stratégie dite de dépeuplement. On élimine tout pour repartir sur des bases saines, qu'Hélène remet en cause avec d'autres collègues du réseau Sauf qui poule, comme Olivier Gazot.
S'il faut diminuer la pression, il faut surtout pas commencer par nous, en fait. Moi, avec mes 700 poulets, je représente rien dans la filière, mais rien du tout.
Et pourtant, Olivier a reçu un mail l'informant que dans sa zone, il va falloir abattre dans les 10 jours, même si ses poulets sont sains.
Tous les lundis, il y a des analyses qui sont faites sur mes volailles, qui me coûtent même relativement cher, mais qui prouvent que mes volailles sont saines. Et du coup, il est pour moi compliqué de devoir détruire des animaux qui sont sains, quoi. Détruire pour aller à la poubelle, quelque part. Ah ben, par contre, moi, je refuse de les abattre moi-même. Ils assumeront leur décision. Ils viennent chez moi s'ils veulent. Mais moi, j'y touche pas. Alors là, je laisse les clés de la maison et je m'en vais, quoi. Je veux pas participer à ça. Hors de question.
Alors, il dit ça parce que dans le département voisin, la Vendée, le plus touché par la grippe aviaire, les services vétérinaires ont été débordés par la situation.
Il y avait une désorganisation totale des services de l'État et ils nous ont demandé de faire tout le sale boulot.
Sale boulot que va vous décrire cet éleveur vendéen, donc, dont je ne donnerai pas le nom parce que trop parler, c'est pas bien vu. Mais voilà ce qu'on lui a demandé de faire la semaine dernière quand son élevage de 18 000 poulets a été touché, lui, par la grippe aviaire.
Ils ont été capables de venir les euthanasier sur place. Donc ils nous ont demandé, et sans l'écrire, de couper les ventilations et de laisser les animaux mourir pendant une nuit. Alors qu'il y a des moyens qui existent pour que la souffrance soit le plus courte possible par euthanasie, soit par injection, soit par des camions avec des gaz pour que l'animal, en l'espace de 30 secondes ou 10 secondes, il meurt et qu'il n'ait pas le temps de souffrir. Là, c'est pas du tout ça, c'est de la barbarie. Et ça, pour moi, c'est inacceptable.
La mort par asphyxie, plus d'air, plus d'eau, plus de nourriture, rien du tout, l'agonie pour ces volailles. Le ministre de l'Agriculture a demandé de ne pas faire de ces exemples des généralités, même s'il reconnaît leur existence. Mais cet éleveur, appuyé par la Confédération Paysanne, affirme qu'il est très très loin d'être le seul.
Moi, j'ai des voisins qui sont venus me voir et ont dit on a chialé en sortant du bâtiment. Puis je suis rentré à midi et demi chez moi, je me suis allongé, je me suis mis dans le noir pendant 2 heures, j'ai dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on vient de faire ?
Avant d'enfouir les animaux morts dans les champs, avec là aussi demande de la préfecture face au site d'écarissage saturé.
Il fallait le cacher, il fallait pas le dire aux médias. Moi, je leur ai dit, mais imaginez que cette grippe aviaire, d'un seul coup, elle aurait pris dans toute la France ou tout l'Ouest. Et comment vous faisiez ?
Et c'est justement la question centrale pour Hélène Bailly.
Les abattages, c'est une chose, mais je crois qu'il ne faut pas trop non plus larmoyer. C'est vraiment qu'on est en train de tuer tout un monde paysan. Derrière, on est en train de tuer des petites fermes, parce que se remettre de traumatismes comme ça, c'est franchement très dur.
Avec très peu de visibilité, en témoigne un autre éleveur, Gaël Marchand.
Nous, paysans, on se dit, qu'est-ce qu'on va être demain ? C'est pauvre.
Voilà, pas réjouissant, donc à moins de tirer les leçons peut-être de toutes ces années.
J'attends que presque qu'il y ait un électrochoc et qu'on prenne conscience que la voie dans laquelle on est, c'est pas la bonne pour tout le monde.
Et Olivier Gazot confirme.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils attaquent un problème avec toujours la même solution. Et le problème ne se règle pas. Il faut commencer à faire demi-tour, quoi. On a un mauvais chemin, il faut faire demi-tour.
En réduisant d'abord la taille, mais surtout la densité des élevages, hein, mieux les répartir sur le territoire. En attendant, les abattages sous toutes leurs formes, donc continuent, et le gâchis de nourriture qui va avec.
Édifiant, Camille Passauvert, à réécouter donc sur la page de la Terre au Carré.
Nadir Alvarez, Lionel Cavin, est-ce que des espèces déséteintes, donc, dans est-ce qu'elles reviennent en fait aussi fortes que les autres ? C'est-à-dire que s'il y a un virus, est-ce qu'elles sont aussi résistantes ou elles sont plus affaiblies ?
Difficile question. Ce qui est vrai, notre collègue parasitologue m'a envoyé un joli article la semaine passée pour dire que ben oui, c'est bien joli de déséteindre des espèces emblématiques comme le mammouth ou d'autres, mais il faudrait penser aussi à peut-être déséteindre leurs parasites qui contribuent aussi au contrôle des populations des mammouths ou peut-être d'autres animaux qui vivent en symbiose avec ces...
Justement, Naoki nous demande sur franceinter.fr si les mammouths recréés, par exemple, auraient des microbiotes et quid de l'influence. Et il demande aussi si les mammouths ne seraient pas des sociopathes. Parce que, qu'est-ce que vous en dites ?
Bon, pour recréer une espèce viable, déjà, il faut une population importante. Donc, il faut au moins une cinquantaine d'individus, je pense, pour une espèce, au minimum, pour que l'espèce soit viable. Après, quant à leur comportement psychique, je sais pas, Nadir, peut-être.
Ah non, aucune idée, Lionel. C'est vrai que, on part du postulat que même si c'est des espèces sociales, elles n'ont pas perdu, disons, la capacité, si elles venaient à revivre, de nouveau, avoir des interactions.
En tout cas, c'est un vrai sujet de réflexion. Hein.
Ouais,
effectivement. Ouais. Pardon de vous couper, mais c'est déjà la fin de l'émission. En tout cas, on peut lire votre ouvrage qui aborde amplement ce sujet, Faire revivre des espèces disparues chez Favre. Merci Lionel Cavin et Nadir Alvarez, et merci aux équipes de la radio suisse romande pour ce duplex depuis Bruxelles.
D'enfants, il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps, personne n'est un.
Et c'était Clara Luciani sur France Inter.
Et dites donc, Mathieu Bidard, révisez un petit peu votre géographie, non?
Voilà, la Suisse, c'est Genève, bien sûr, vous l'aviez compris.